Je vais commencer avec quelques mots d'introduction pour mettre certaines choses au clair et pour expliquer un peu les raisons pour ce message ce matin. Parce que notre sujet ce matin, c'est l'argent et l'Église, et plus particulièrement les offrandes et la dîme. Et si j'ai le truc pour les diapos, ah, il est là. Merci. La première chose que j'aimerais dire, c'est que je reconnais que ce sujet peut être un peu délicat pour certains, et il peut même être extrêmement tabou selon notre culture d'origine. Dans l'église où j'ai grandi, on aurait pensé que l'argent n'existait même pas, parce qu'on parlait tellement rarement. Et donc, s'il vous plaît, si vous entendez quelque chose qui vous choque, quelque chose qui vous perturbe, venez m'en parler. Parce que notre but principal en tant que disciple de Jésus, c'est toujours comprendre la parole et de suivre les Écritures ensemble. Et pour ça, il faut qu'on les lise et qu'on en parle. Deuxièmement, la raison pour ce message est tout simplement que nous, les anciens, Jean-Serge et moi-même, nous avons constaté le besoin. Par cela, je ne veux pas dire au niveau de nos comptes bancaires, les comptes bancaires de l'Église. Je veux dire que nous avons eu plusieurs conversations ces derniers mois avec des gens qui voulaient connaître notre perspective et notre pratique en tant qu'Église par rapport aux offrandes et la dîme. Et ces questions étaient de très bonnes questions et j'espère y répondre ce matin. Cela dit, ce message ne vise aucun individu, c'est pour nous tous. Alors, pour les visiteurs, les nouveaux venus, pour les nouveaux venus, certains aspects de ce message vont toucher notre façon de fonctionner en tant qu'Église, en tant qu'assemblée, d'une manière très spécifique. Et ce n'est pas pour vous exclure. J'espère que ça sera plutôt une occasion, d'apprendre à connaître notre assemblée et surtout, d'entendre la parole de Dieu. Alors, finalement, avant de regarder la Bible ensemble, un autre détail que j'aimerais souligner. Cette assemblée est une assemblée assez jeune. Elle a été implantée il y a une vingtaine d'années par des missionnaires américains dans l'occurrence, comme moi. Et ça veut dire que moi, comme les autres missionnaires, je ne suis pas rémunéré par l'Église. Je reçois mon salaire de la mission américaine qui soutient notre travail ici en France. Ce n'est pas que cette assemblée ne veut pas rémunérer un pasteur, mais c'est normal que l'Église globale soutienne une nouvelle Église jusqu'à ce que la nouvelle Église puisse faire soi-même. Nous avons ce genre d'exemple dans le Nouveau Testament. Et je dis tout cela simplement pour dire que ce que je dis ce matin n'a rien à voir avec ma situation personnelle. C'est toujours délicat, à mon avis, pour un pasteur de prêcher sur l'argent d'une manière ou autre s'il risque d'en profiter. Ce n'est pas pour dire qu'il ne devrait jamais le faire, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et il faut qu'on soit transparent et franc sur ce sujet. Mon salaire est assuré par l'Église globale. Ce n'est donc pas ce dont on parle ce matin. Ce matin, on parle de notre responsabilité en tant qu'individu devant Dieu et aussi de sa vision pour cette Église pour l'avenir. Alors, voilà pour les points d'introduction. Je propose donc de diviser le message ce matin en quatre parties. La dîme et les offrandes dans l'Ancien Testament. La relation entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la dîme et les offrandes dans le Nouveau Testament, et finalement des principes et des suggestions pratiques pour notre application de ces passages. Premièrement, alors, la dîme et les offrandes dans l'Ancien Testament. On ne peut pas lire tous les passages bibliques ce matin. Je vais essayer d'être assez détaillé, mais quand même, je vais faire plutôt un survol en affichant certaines références sur l'écran, pour ceux qui veulent creuser un peu plus à la maison. Alors, on peut noter d'abord que l'idée d'offrande et de sacrifice existe depuis Cain et Abel, en Genèse 4, et aussi Noé, Abraham et Jacob on parle. Les histoires d'Abraham et Jacob particulièrement évoquent non seulement des offrandes, mais aussi la notion de la dîme. Ce qui veut dire tout simplement 10%. Mais ce n'est que dans le livre de Lévitique, c'est-à-dire dans la loi de Moïse, que Dieu donne des règles spécifiques par rapport à la dîme. Et voici ce qu'on lit en Lévitique chapitre 27. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et puis en Nombre 18, c'est expliqué en plus de détails. Je donne comme possession aux Lévites toute dîme en Israël pour le service qu'ils effectuent, le service de la tente de la rencontre. La tente de la rencontre, c'est le tabernacle qui deviendrait après le temple. Donc voilà le premier point. Cette dîme, ce qu'on appelle la dîme lévitique, est destinée aux Lévites. Les Lévites étaient la tribu d'Israël qui s'occupait de tout ce qui était culte et adoration pour le peuple. Et tous les prêtres venaient de cette tribu. Et ça veut donc dire que cette dîme existait pour faire fonctionner le temple. Les Lévites n'avaient aucun terrain à eux pour cultiver et vivre. Et ils vivaient donc exclusivement par cette dîme. C'est aussi intéressant de noter que après l'avoir reçu, les Lévites étaient exigés de donner eux-mêmes aussi une dîme de ce qu'ils avaient reçu. Ça, c'est la dîme lévitique, ce qu'on pourrait appeler la dîme de base, parce que c'était essentiel pour la vie religieuse du peuple d'Israël. Mais ce n'est pas tout. En Deutéronome, nous lisons également de deux autres dîmes. La dîme des fêtes et la dîme pour les pauvres, les orphelins et les veuves. Je ne vais pas lire le passage, mais il se trouve en Deutéronome 14, versets 22 à 26. La première, la dîme des fêtes, elle était réservée pour le pèlerinage annuel à Jérusalem que faisait chaque famille en Israël pour adorer Dieu au temple. Alors que la deuxième, évidemment, était destinée aux gens dans le besoin. Les pauvres, les veuves, les orphelins. Et cette dernière n'était exigée que tous les 3 ans. Ce qui veut dire donc, quand on parle de la dîme dans l'Ancien Testament, on parle en fait d'environ 23% de ses biens chaque année. On pense souvent à 10%, mais dans l'Ancien Testament, c'était presque 23% chaque année. Et cela ne compte pas des offrandes. Les offrandes dont certains étaient exigés et d'autres étaient volontaires. Voilà. Et parlons donc brièvement des offrandes. Les offrandes dans l'Ancien Testament étaient en gros les choses au-delà de la dîme amenées aux prêtres en tant que sacrifice personnel, soit pour le péché, soit comme signe de reconnaissance et d'adoration. À cet égard, l'idée des prémices ou des premières récoltes est très importante. En Deutéronome 26, nous lisons « Tu prendras les premiers de tous les produits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras à l'endroit que l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider son nom. » Donner les premières récoltes, c'était un acte de reconnaissance et un signe de foi. Parce qu'au lieu d'attendre et de voir si ils allaient avoir assez pour eux-mêmes, ils donnaient à Dieu en premier. Au moins, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Mais dans les prophètes, nous lisons à plusieurs reprises que les gens ne donnaient pas à Dieu ce qu'ils avaient commandé, parce que justement, ils avaient peur de ne pas avoir assez pour eux-mêmes. Le passage suivant, en Malachie 3, est assez souvent cité à cet égard. C'est Dieu qui parle. C'est un peu petit, mais je vais lire. un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Le peuple avait négligé la dîme et ainsi le temple, la maison de Dieu. Mais Dieu les rassure, « Amenez ce que j'ai commandé et vous allez voir, je pourvrai à tous vos besoins. » Mais en même temps, nous lisons aussi à plusieurs reprises dans les prophètes que tout cela, les dîmes, les offrandes, les sacrifices, même quand on le fait, ce n'est rien si on vit une vie d'injustice. En Osée 6:6 par exemple, il est écrit, « En effet, je prends plaisir à la bonté et non au sacrifice, à la connaissance de Dieu plus qu'au holocauste. » On peut donner tout ce qu'on veut à Dieu, mais si on ne donne pas sa vie, si on reste injuste et orgueilleux et rebelle, ça ne lui plaît pas. Ça ne veut rien dire. Donc voilà, donc en gros, les offrandes et les dîmes dans l'Ancien Testament. Ils sont exigés afin d'assurer le fonctionnement du temple, l'adoration de la communauté et le soin des démunis. Et si on suit ces commandements en donnant le meilleur de ce qu'on a, c'est Dieu qui pourvoit. En même temps, cela ne remplace pas une vie de justice et d'une vraie connaissance de Dieu. Alors, avant de voir ce que le Nouveau Testament dit sur ces mêmes questions, parlons un peu de la relation entre les deux, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Cette relation n'est pas toujours évidente. Certes, le Dieu de l'Ancien Testament est le même que le Nouveau. Et imaginer autrement serait un blasphème. Mais en même temps, la loi de Moïse, par exemple, a été donnée à Israël. Et nous ne sommes pas Israël. Nous sommes l'Église. Et comment donc appliquer ce que Dieu a dit à Israël à notre propre vie? C'est ça la question. Si les règles sur ce qu'on peut manger et ne pas manger, par exemple, ne s'appliquent plus, comme le livre des Actes nous enseigne, est-ce que les règles sur la dîme et les offrandes s'appliquent toujours? Et dans quel sens? On va y arriver. Mais d'abord, qu'est-ce qui est nouveau dans le Nouveau Testament? Quand je dis Nouveau Testament, vous entendez le mot nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau dans le Nouveau Testament? Alors, je ne vais pas lister toutes les différences. On va juste voir trois qui sont très pertinents à notre propos ce matin. D'abord, plus de sacrifices. Le système des sacrifices dans l'Ancien Testament s'est terminé avec Jésus, car il était pour nous le sacrifice ultime. C'est le sens de la lettre aux Hébreux chapitre 10, surtout verset 14. Plus de sacrifices grâce à Jésus. C'est pour ça qu'on ne tue pas des animaux là devant tout le monde chaque dimanche. Heureusement, ça serait compliqué quand même. Plus de sacrifices grâce à Jésus. Et puis, si on lit verset 16, on voit que la loi aussi a changé. Parce que maintenant, sa loi est écrite dans notre esprit. Je vais lire. Je ne sais pas si je l'ai affiché. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Hébreux, chapitre 10, verset 16. C'est-à-dire, ce n'est pas une question de suivre une liste de règles. C'est une question d'être transformé par la parole et par l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi dans la Nouvelle Alliance. c'est que la loi de Dieu ne se limite pas à ce qui est écrit. Il s'agit du renouvellement de notre esprit. Notre être intérieur est renouvelé. Et à cause de cela, notre comportement change. Grâce à cela, notre comportement change. Et c'est l'esprit qui nous donnera la force de mettre cette loi en pratique. Alors, plus de sacrifices et la loi sur notre cœur. Deux grandes différences entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Finalement, le temple. Dans l'Ancien Testament, le temple était un bâtiment, un endroit spécifique qui était le lien entre ce monde et Dieu, sa demeure sur terre. Mais maintenant, vous savez bien, et si vous ne savez pas, c'est écrit sur l'écran. C'est quoi le temple? C'est nous le temple, c'est l'Église. Pas le bâtiment, mais les gens. Individuellement et ensemble, nous sommes le temple de Dieu vivant sur terre. Les sacrifices, la loi et le temple ont donc tous été transformés sous la nouvelle alliance que nous avons par le sang de Jésus. Il faut garder tout ça en tête quand on se pose cette question sur les offrandes et les dîmes. Alors, voyons ce que le Nouveau Testament enseigne sur ces questions. En ce qui concerne la dîme, il faut dire, le Nouveau Testament ne dit pas grand-chose. Jésus en parle une fois dans les évangiles. Mais là, c'est aux pharisiens qui sont toujours sous la loi de Moïse. Et c'est pour leur rappeler que la dîme ne suffit pas pour plaire à Dieu. C'est en Matthieu, je n'ai pas marqué, en tout cas vers la fin de Matthieu. Alors, pour voir ce qui est enseigné pour nous, l'Église, sous la Nouvelle Alliance, il faut regarder le livre des Actes et les lettres de l'apôtre Paul. Ces livres parlent assez souvent de l'argent et de ce qu'on devrait faire avec. Mais c'est jamais une question de dîme, en fait. C'est-à-dire la notion d'un pourcentage précis n'est jamais mentionnée. Tout comme Jésus prend la loi et la ramène à ses racines spirituelles dans son sermon sur la montagne, par exemple, nous voyons que le livre des Actes est finalement même plus interpellant que la dîme. Vous vous souvenez peut-être, parce qu'on a étudié tout le livre des Actes cet automne, on lit d'une communauté qui met leurs biens en commun. Actes chapitre 2, verset 44. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors, comme nous l'avons constaté, cela n'est pas pour dire qu'ils vendaient absolument tout ce qu'ils avaient, parce que nous lisons du fait qu'ils se rencontraient quand même dans des maisons, ce qu'ils n'auraient pas pu faire s'ils avaient vendé tout absolument. Mais ils ont vendu tout ce qu'ils avaient qui n'était pas essentiel à la vie, afin que personne ne soit dans le besoin. Et ce qui est intéressant ici, pour notre question ce matin, c'est la façon dont ils ont utilisé leurs biens. Les disciples en Actes ont utilisé ce qu'ils avaient pour pourvoir aux besoins des autres. Et ils ont utilisé leurs biens pour célébrer Dieu ensemble, pour le fêter en rompant le pain ensemble dans leur maison. Alors, où est-ce que nous avons vu ça déjà? Ce sont les mêmes buts qu'avait la dîme dans l'Ancien Testament. En décrivant la vie des disciples, le livre des Actes reprend deux des trois buts de la dîme dans l'Ancien Testament, la dîme des fêtes et la dîme pour les pauvres, les orphelins et les veuves. Sans parler de la dîme elle-même. Et puis, dans les lettres de Paul, nous voyons aussi le premier but, le fonctionnement du temple. Lisons ce que l'apôtre Paul va dire à l'église de Corinthe. Il est en train d'expliquer pourquoi il aurait le droit, lui, en tant qu'apôtre, d'être soutenu par ces églises. Alors, bon, je vais lire. Ne savez-vous pas que ceux qui assurent le service du culte sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel reçoivent une part de ce qui est offert sur l'autel? De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Autrement dit, Paul fait le lien entre le temple de l'Ancien Testament et ceux qui travaillent pour le nouveau temple, dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire pour l'Église. Ces gens, ils disent, auraient le droit de gagner leur vie parce qu'ils font pour ce qu'ils font faire pour faire fonctionner l'Église. Et encore, je ne dis pas ça parce que je souhaite que cette Église me rémunère. Mais il faut quand même comprendre que selon la Bible, c'est normal qu'un pasteur, s'il en a besoin, qu'il vive par son travail pour l'Église. Le livre des Actes et les épîtres de Paul enseignent clairement alors que même si la loi de Moïse ne s'applique plus à nous directement, et même si le temple en tant que bâtiment n'existe plus, le but de la dîme sont encore valables. Le fonctionnement du temple et ses dirigeants, ce qui est maintenant l'Église et ses pasteurs, l'adoration ensemble, notre vie en commun et les besoins des démunis. Cependant, si les buts demeurent, il n'y a aucune prescription sur le montant dans le Nouveau Testament, parce que ce n'est pas une question d'une loi écrite, mais la loi du Christ gravée sur notre cœur par son esprit. Et l'apôtre Paul évoque cette réalité toujours dans une lettre aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 8 et 9. Et en particulier, il dit aux Corinthiens, en 2 Corinthiens 9, verset 7, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. On connaît bien ce verset, je pense. C'est ça la description d'une loi gravée sur son cœur. Une loi qui ne nous exige pas de l'extérieur, mais qu'on ressent dans son cœur et qu'on fait avec joie. Et ça veut dire que Paul ne dit pas aux Corinthiens combien il faut donner, mais plutôt qu'il décide combien Dieu veut qu'il donne. C'est-à-dire qu'il discerne la volonté de Dieu dans cette situation précise, et puis qu'il donne avec joie. Parce que c'est une joie de participer dans l'œuvre du Seigneur. Et ils peuvent donner avec joie parce que Paul le rappelle dans le prochain verset, verset 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Encore, ce même principe qu'on a vu dans l'Ancien Testament, nous donnons parce que nous avons confiance en Dieu, qui va pourvoir à tous nos besoins. Cela n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. C'est toujours un acte de foi de donner. Parce que l'acte de donner nous exige de remettre nos propres besoins entre les mains de Dieu. L'autre chose qui n'a pas changé, c'est que si Dieu nous comble de toutes ses grâces, c'est pour que nous puissions être une bénédiction aux autres. C'est pour toute œuvre bonne, comme il dit dans ce verset. Toute œuvre bonne. Nous ne donnons pas à Dieu afin qu'il nous enrichisse. Nous donnons à Dieu afin qu'il nous permette d'être une bénédiction aux autres. En faisant confiance à lui, qui nous bénira selon sa volonté. Alors, pour terminer, ça sera quand même une grande partie de ce qu'on va dire, mais il faut parler de l'application en termes très pratiques. D'abord, Paul évoque deux principes importants à la fin de sa première lettre aux Corinthiens, au début du chapitre 16, versets 1 à 2. En ce qui concerne la collecte en faveur des saints, faites vous aussi comme je l'ai prescrit aux églises de Galatie, que chacun de vous, le dimanche, mette de côté chez lui ce qu'il pourra en fonction de ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour récolter les dons. Alors, premièrement, notons que Paul dit ici que chacun donne selon ses moyens. C'est presque la même idée de ce qu'on voit dans l'Ancien Testament avec la dîme. Ceux qui gagnent plus, donnent plus. Ceux qui gagnent moins, donnent moins. Et ça veut dire aussi, si ma situation change, ce que je donne change. Parce que mes moyens ont changé. Si une semaine ou un mois ou une année, je gagne plus, j'ai plus de moyens. Et alors, je donne plus. C'est un principe important parce que sinon, ma tendance humaine sera toujours de dire, quand je gagne plus, alors, enfin, je peux acheter ceci ou cela. Un nouveau truc pour me plaire. L'iPhone, quoi que ce soit. Sans songer à donner plus à Dieu ou aux autres. Et en même temps, c'est aussi notre tendance humaine de se culpabiliser si on ne peut pas donner autant qu'on voudrait. Mais si je décide sur un pourcentage et puis je ne gagne pas beaucoup, je donne moins. Et je sais que j'ai donné ce que j'avais décidé, non pas en termes d'un montant fixe, mais selon mes moyens. Et je n'ai aucune raison de me culpabiliser. Donner, ça ne devrait pas être une occasion pour l'ennemi de nous accuser. Et d'ailleurs, si je suis dans une situation particulièrement difficile, au chômage, en couple avec quelqu'un qui ne veut pas donner à l'église, bouleversé par une catastrophe financière, je peux avoir confiance que Dieu voit ce que je fais, il voit que je fais ce que je peux avec ce que j'ai, comme la veuve dans les évangiles, et il reçoit comme une adoration sincère. Dieu n'est pas là pour nous mettre un fardeau. Nous donnons selon nos moyens. Si je gagne plus, je donne plus. Si je gagne moins, je donne moins. Alors, le deuxième principe ici, c'est qu'on mette ses dons de côté régulièrement et qu'on n'attende pas la dernière minute. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous connaît. Paul n'explique pas ici, mais si on fait le lien avec l'Ancien Testament, ça revient au principe des premières récoltes. C'est-à-dire, on donne à Dieu d'abord, sans attendre pour voir comment vont aller les choses. Quand je reçois mon salaire cette semaine, je mets de côté ce que j'ai décidé, même si je ne suis pas sûr d'avoir un salaire la semaine prochaine. Ça, ce n'est pas facile. Mais quand même, c'est une question de confiance en Dieu, qu'il pourvoit. C'est aussi tout simplement une question de sagesse. Parce que si, par exemple, dans le cas des Corinthiens, Paul va arriver dans 10 semaines et on met, je ne sais pas, 10 euros de côté chaque semaine, on aura bien 100 euros à donner quand il arrive. Mais si on attend, et on attend, et on attend, en disant, bah, je mettrai beaucoup de côté juste avant qu'il arrive, bien évidemment, ça sera difficile de mettre 100 euros de côté tout d'un coup. C'est comme l'enfant qui veut attendre la fin de la semaine pour ranger sa chambre. Au lieu d'en faire un peu chaque soir. Un samedi arrive et qu'est-ce qu'on entend? Et papa, je ne peux pas. C'est trop. Je n'arriverai jamais. Et je cite. Et c'est vrai. En plus, c'est vrai. Parce qu'à un certain moment, ça devient trop. Et tu ne vas pas arriver. à un certain moment, ça devient trop si on laisse à la dernière minute. Et l'œuvre de Dieu est tellement plus importante qu'une chambre bien rangée, même si nous, les parents, sommes assez convaincus de ce dernier aussi. Mais alors, comment appliquer ce principe? Faut-il mettre quelque chose dans le panier chaque dimanche, selon ces versets? Pas exactement. Paul dit « mettez quelque chose de côté chaque semaine », pas forcément « donner chaque semaine ». Et je souligne tout simplement parce que dans notre société, nous avons plusieurs façons de donner. Certains, dans cette église, donnent en espèces, mais d'autres par chèque, d'autres par virement automatique même. Et je peux dire, c'est très pratique pour les trésoriers. Et dans ce cas-là, ça ne vaut pas contre ce que Paul enseigne dans ses versets. Si on donne toutes les deux semaines, tous les mois, ou chaque trimestre même, si on arrive à bien suivre le principe de mettre quelque chose de côté au fur et à mesure qu'on le reçoit. Alors, une autre question pratique. Est-ce que tout cela ne concerne que les membres de l'Église? La réponse toute courte est non. Parce qu'il n'y avait pas une question d'être membre de l'Église dans le Nouveau Testament. Ça nous concerne tous parce que si nous avons mis notre foi en Jésus, ça veut dire que nous faisons partie de son Église globale. La question d'être membre ou pas de telle ou telle assemblée, c'est important pour notre fonctionnement administratif dans le cadre de la société française. Mais ça ne change point par rapport à nos responsabilités spirituelles. Et nous parlons ce matin des responsabilités spirituelles, non pas des responsabilités administratives. Alors, avec cela, est-ce qu'il faut donner à son église locale? C'est une autre question qu'on entend parfois. Ou peut-on donner une partie ou le total à d'autres églises ou d'autres œuvres chrétiennes? Et là encore, il n'y a pas de règle dans la Bible par rapport à tout ça. C'est comme le montant, il faut décider entre toi-même et Dieu. En même temps, à mon sens, le principe de soutenir le temple et de participer à l'adoration commune indique qu'on devrait faire ce qu'on peut pour soutenir d'abord l'assemblée à qui on appartient, la famille spirituelle locale, selon ses besoins, et puis penser aux autres assemblées et aux autres œuvres. Mais ce n'est pas clairement enseigné dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de règles. Et quand on cherche toujours des règles, ça veut dire parfois qu'on n'écoute pas assez l'Esprit. Alors finalement, la question qui nous préoccupe parfois, même si elle ne préoccupe pas l'apôtre Paul, le montant. Comment décider combien je devrais donner? Alors, d'abord, n'oublions pas que même si la dîme ne s'applique plus, les buts de la dîme demeurent. Que le temple de Dieu accomplisse sa mission, que la communauté puisse l'adorer ensemble, qu'on prenne soin des démunis. Nous sommes appelés à donner, donc, d'une manière qui rend tout cela possible. Et pour cela, il faut rester sensible aux besoins autour de nous. Justement la raison pour laquelle on a invité Alessio à venir en parler ce matin, parce qu'il faut rester sensible à ce qui se passe autour de nous, dans notre assemblée, dans notre ville. Il faut en parler. Il faut parler de notre budget le mois prochain à notre assemblée générale. On va en parler. Il faut planifier et il faut prier que Dieu mette sur notre cœur ce qu'il veut que nous donnions. Et je vous encourage donc, tout simplement, lisez la parole, priez sur cette question, considérez les besoins autour de vous et laissez Dieu vous parler. Peut-être qu'il t'appellera à donner 10%. Peut-être beaucoup moins. Peut-être beaucoup plus. J'ai lu récemment l'histoire d'un pasteur qui, à son propre étonnement, est devenu assez riche parce qu'un livre qu'il avait écrit est devenu très connu. Ses moyens avaient changé radicalement grâce à ça, mais ses besoins restaient plus ou moins comme avant. Et donc, au lieu d'acheter une énorme maison et une nouvelle voiture, et ainsi de suite, dont il n'avait pas besoin, lui et sa femme se sentaient appelés à donner plutôt 90% de ce qu'ils avaient à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient conscients que tout ce qu'ils avaient appartenait à Dieu. Tout le problème avec le peuple d'Israël à certains moments dans l'Ancien Testament et tout le problème avec les pharisiens à qui Jésus parle dans les évangiles, c'est qu'ils imaginent que dès qu'ils avaient donné le montant exact que Dieu avait demandé, c'était fini. Ils avaient fait leur devoir comme un bon élève, ils se sont acquittés de leurs obligations envers Dieu, et donc, voilà, c'est tout. Mais ce n'est pas ça la vie d'un disciple de Jésus. La vie d'un disciple de Jésus est de donner toute sa vie à Dieu. Son argent, son temps, son énergie, tout à Dieu, pour que Dieu en fasse ce qu'il veut. Il n'y a plus de sacrifices animaux dans le Nouveau Testament, grâce au sacrifice de Jésus. Mais en tant que ses disciples, nous sommes appelés à être des sacrifices vivants. Des gens dévoués au Seigneur comme une offrande de reconnaissance. Ce qui veut dire que même l'argent que je garde dans ma poche est à lui. J'ai apprécié la prière d'Alessio ce matin, justement, parce qu'il a parlé de l'ensemble. Ce n'est pas une question de ce que je mets dans le panier et puis ce que je garde pour moi-même. La question est, comment est-ce que Dieu veut que j'utilise tout mon argent, et mon temps, et mon énergie, parce que tout est à lui. Et si je lui pose la question, comment veux-tu que j'utilise tout ce que tu m'as donné? Est-ce que je risque d'entendre quelque chose que je ne veux pas entendre? Oui, absolument. C'est pourquoi ça s'appelle un sacrifice. Parce que ça nous coûtera quelque chose. Mais si c'est la volonté de Dieu, tout sacrifice amène une bénédiction. Pas forcément une bénédiction matérielle, peut-être, et pas forcément. Mais une bénédiction quand même. C'est la promesse de Dieu pour nous. Donner à Dieu, ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. C'est un privilège de participer à la vie du temple vivant. Le temple vivant sur terre. Le temple du maître de l'univers. C'est un privilège de l'adorer ensemble. C'est un privilège de prendre soin les uns des autres. Vivre comme un sacrifice vivant nous coûtera. Mais c'est la plus grande joie qui soit. Mettez-moi à l'épreuve, il te dit, et tu vas voir. Je t'ai tout donné, y compris ma vie. Romains 11. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Je t'ai tout donné, y compris ma vie. Donne-moi la tienne et vois si je ne te bénis pas. Tout l'univers est à moi. Ce n'est pas un problème pour moi de pourvoir à tous tes besoins, matériels et spirituels. Mettez-moi à l'épreuve parce que vous êtes à moi. C'est ça la